Ils ont du talent et leur art, ils l'utilisent pour dire leur expérience de Dieu. Après un chanteur et une danseuse, voici aujourd'hui une conteuse que Serge Carrel a rencontrée cet été dans le cadre d'un stage artistique chrétien en France. Bonjour et bienvenue dans cette troisième édition de cette série Convictions d'artistes réalisée par Françoise Yeni.
À vue d'esprit. Pierre-Yves Moret.
Serge Carrel, bonjour.
Bonjour Pierre-Yves.
C'est vous qui nous emmenez dans le sud de la France et nous poursuivons cette moisson d'artistes avec des convictions chrétiennes que vous nous proposez cette semaine. Et aujourd'hui, une conteuse que nous rencontrons en votre compagnie.
Oui, elle s'appelle Brigitte Blaise. Elle exerce son art de conteuse au Musée de la Musique à la Villette à Paris. Elle compte là-bas les instruments de musique, les grands musiciens ou compositeurs. Et à côté de cela, depuis quelques années, elle s'est lancée dans l'art de conter la Bible.
Alors, vous l'avez rencontré, mais est-ce que vous l'avez entendu le faire, conter la Bible?
Oui, lors d'une soirée, la soirée des professeurs, dans le cadre de ce stage des écoles psalmodia à Gagnères, j'ai pu entendre Brigitte Blaise conter la Bible devant quelques 700 participants. Alors, c'était tout à fait saisissant, voire magique.
Est-ce que c'est intense?
Oui, elle a réussi vraiment à nous captiver, à raconter l'histoire des évangiles, l'histoire biblique de Zachée, ce petit homme, vous savez, qui voulait voir Jésus. Et c'était assez exceptionnel. Alors, je vous propose de la retrouver maintenant. Elle nous parle de l'un de ses derniers projets majeurs, un spectacle autour de François d'Assise qui s'intitule « Le troubadour de Dieu ».
Avant d'être fascinée, j'ai dû répondre à une demande déjà qui était celle de mon amie Guillemette de Pimodan, qui est conteuse angevine, et qui m'a donc demandé de faire la musique de ce spectacle. Donc là, j'ai commencé à me demander qui était François d'Assise.
J'imagine que vous avez dû lire pas mal de biographies, vous documenter un peu.
Je suis quand même d'origine catholique, donc j'en avais entendu parler, mais la seule chose que je connaissais de François, c'était les oiseaux. Voilà, c'était un petit peu cette image, pas beaucoup plus. Donc j'ai dû lire les livres que Guillemette m'a donnés, les livres de Julien Green, notamment.
Donc une biographie de François d'Assise.
Mais oui, bien sûr. Oui, il faut bien, quand on commence un spectacle, il faut savoir de quoi on parle.
Et puis là, l'inspiration est venue rapidement pour la musique, pour les paroles aussi de certaines chansons.
Alors, déjà, mon premier souci, c'était d'être à l'écoute de la conteuse pour la musique. Le choix des instruments devait être tourné autour du Moyen-Âge. Donc j'ai commencé par saisir autour de ce que j'avais autour de moi des instruments qui se rapprochaient de cette sensibilité.
Donc vous êtes à la fois vous-même conteuse, mais en même temps vous êtes aussi musicienne, vous avez un nombre tout à fait extraordinaire d'instruments chez vous, donc j'imagine passablement d'instruments du Moyen-Âge que vous avez utilisés à cette occasion-là.
Oui, voilà, j'ai beaucoup d'instruments, j'en ai presque 400, c'est une passion. Et j'en ai quelques-uns, oui, qui est dulcimer, psaltérion. J'ai dû en construire. J'ai dû construire les carillons, parce que ça, j'en avais pas. Une luth, voilà. Des choses comme ça. Il y en a à peu près 8 dans le spectacle.
Donc là, vous êtes aussi à la fois intervenue comme joueuse de ces instruments dans le cadre de ce spectacle.
Voilà. Et puis alors, pour la première fois, j'ai fait une chose que je n'avais jamais fait. J'ai chanté. Je me suis mise à chanter. Je ne savais pas que je pouvais le faire. Et donc, j'ai fait quelques petites chansons. Et la dernière est reprise dans... J'ai vraiment pris dans le livre de Julien Green une parole que François disait.
Quel était l'accueil du public par rapport à ce spectacle?
Formidable. Alors, nous avons joué la première fois dans la salle synodale de la cathédrale d'Angers. Ça, c'est une de mes plus grandes émotions. Parce que c'est très beau. Parce qu'il y avait là un nombre de gens incalculable, beaucoup de religieuses, qui, quand je leur disais après, vous savez, moi je suis en sensibilité plutôt que protestante, elles me disaient, oh, mais bravo, bravo, bravo. Voilà, donc la cathédrale d'Angers, c'est vrai que c'était une grande émotion quand même.
Et vous avez eu l'occasion de tourner ce spectacle sur l'ensemble de la France?
Nous l'avons donné une vingtaine de fois. Beaucoup en Anjou, parce que c'est Guillemette qui trouve plutôt les spectacles.
Donc c'est elle plutôt qui est la conteuse qui les organise, donc voilà. Elle fait fonctionner un peu son réseau.
Voilà, moi j'ai du mal dans les milieux protestants, c'est dommage, c'est mon souhait.
Brigitte Blaise, Qu'est-ce qu'au travers de ce spectacle, vous avez essayé de dire d'essentiel ?
L'amour. L'amour de Dieu. Et le spectacle se finit avec donc cette petite chanson que j'ai mise à la fin, les paroles que François lui-même aurait dites.
Et quelles étaient ces paroles ?
Alors, je vais vous les dire, en chantant. Il disait que Dieu est amoureux de nous et tout à coup il pleurait d'amour. Il disait, laissez-là ce qui encombre vos cœurs et entrez dans le palais de votre Père éternel, fils et filles de roi, fils et filles de roi.
Et c'est comme ça que le spectacle se terminait ?
Ça se termine sur cette chanson.
Brigitte Blaise, vous exercez aussi comme conteuse au musée de la musique à la Villette à Paris. Qu'est-ce qui vous a conduit à exercer votre art de conteuse dans ce cadre-là ?
Eh bien déjà parce qu'une grande amie, Anne Montange, était elle-même conteuse là-bas et que petit à petit bon, la connexion s'est faite et que je me suis présentée. J'ai une passion pour les instruments de musique qui fait que j'avais
Vous aviez quasiment votre place là-bas.
Mais oui, c'était étonnant ça, parce qu'en fait, moi je suis musicienne de base, j'ai créé des écoles de musique, bon, j'ai fait que ça, et je n'aurais jamais été prise comme musicienne, parce qu'ils prennent les meilleurs musiciens du conservatoire d'à côté, et je suis rentrée par les histoires, c'est complètement étonnant, quoi. Nous sommes 7 conteurs là-bas.
Donc vous avez une fonction un peu de guide dans le cadre de ce musée. Vous êtes censé rendre vivant tout le patrimoine qu'héberge un tel musée.
Oui, voilà. Alors il y a des visites avec conférenciers. Donc lui, le conférencier parle des vitrines, des instruments. Et nous sommes là pour les poétiser en quelque sorte. Voilà. Et puis parfois, il y a des petits spectacles avec un musicien qui nous accompagne le dimanche. Mais bon, c'est le paradis des instruments de musique.
Et qu'est-ce que vous racontez à propos de ces instruments de musique, à propos de ces vitrines, où j'imagine de certaines figures que l'on peut croiser là-bas, les grandes figures de la musique ?
Bien, moi étant musicienne et passionnée par l'organologie, je m'appuie toujours sur une anecdote réelle, quelque chose qui est vraiment lié à l'instrument de musique. Voilà, bon, par exemple, la vielle à roue en Savoie, les musiciens l'appellent la quinquerne. Et la quinquerne en savoyard, si je me trompe pas, ça veut dire quelque chose comme radoter. Hein. La vielle à roue répète toujours la même chose. Voilà.
Donc moi, Elle radote, c'est l'instrument qui radote, c'est ça ?
L'instrument qui radote, voilà. Donc moi, je me suis basée là-dessus pour construire ma petite histoire d'une grand-mère qui répétait toujours la même chose. Exemple.
Et vous auriez une anecdote à nous dire, juste maintenant, une anecdote que vous diriez, par exemple, à des enfants ou à des adultes qui viennent visiter ce musée de la musique à la Villette ?
Ben, je pense à l'histoire des oreilles de la mer, parce que ça, je racontais ça devant une conque pour rappeler l'importance de la présence aux choses, avant même de parler d'écoute.
Vous seriez d'accord de nous la dire maintenant ?
Peut-être pas en entier, mais je vais vous en dire un petit bout. Voilà, donc vous savez que les conques, c'est donc un gros coquillage. Et bien voilà, c'est qu'au tout début des temps, il n'y avait que la mer, le ciel et la terre. Et la mer, figurez-vous, dans ce temps-là, avait des oreilles. Des oreilles qui lui rapportaient tout ce qui se passait sur la terre et dans le ciel. Et les oreilles disaient à la mer, tu sais, sur la terre, il y a des choses qui galopent, il y a des choses qui bougent au vent, qui vacillent, il y en a qui courent, il y en a qui rampent. Et la mer se disait, je veux la même chose. C'est ainsi que sont nés au fond des océans les hippocampes, les escargots de mer, les herbes, les algues, les anguilles. La mer reproduisait au fond des océans tout ce qu'elle apprenait qui existait sur la terre et dans le ciel. Et lors du grand chambardement, quand la terre a pris la place de la mer et la mer la place de la terre, on raconte que la mer en aurait perdu ses oreilles. Quand vous vous promenez sur la plage, entre la terre et la mer, il y a ces gros coquillages, comme des oreilles enroulées sur elles-mêmes. Les hommes un jour les ont pris dans leurs mains, et pour voir si la mer était devenue sourde dans cette histoire, se sont pris à souffler dedans. Prenez garde à vos oreilles. N'ayez pas peur de les ouvrir, vous ne prendrez pas l'eau. Mais ne faites pas comme la mer. Ne les perdez pas en chemin.
Merci beaucoup Brigitte Blaise pour cette anecdote résumée. C'est donc une anecdote que vous racontez aux enfants et aux adultes.
Pour ouvrir les oreilles.
Et ça marche bien? Vous avez une bonne écoute? Les gens sont attentifs?
Oui, ça marche très bien. Ça marche très bien. Les visites comptent au musée de la musique ont beaucoup de succès.
Brigitte Blaise, on l'a entendu, vous êtes à la fois musicienne, passionnée d'instruments de musique, et en même temps, vous êtes conteuse au musée de la musique à la Villette à Paris. Et ces dernières années, vous avez développé une activité en lien avec les églises, mais aussi en dehors d'elles, celle de la narration de la Bible. Alors, pourquoi cette nouvelle manière d'envisager, de dire la Bible?
Bien, c'est pas que j'ai inventé une nouvelle manière de dire la Bible, c'est simplement que c'est parti d'une promesse à Dieu que je raconterai pour lui. Donc, après cette promesse, il a bien fallu que j'y aille.
Et vous vous êtes lancé, vous avez quelque part pris le texte biblique et vous vous êtes mis à écrire des contes pour dire la Bible?
Non, parce que les conteurs n'écrivent pas.
D'accord, mais j'imagine que vous avez quand même tout un travail de mise en scène ou de rédaction quand même de l'histoire, parce que vous ne racontez pas la Bible telle qu'on la lit, vous essayez quand même d'entrer dans certains personnages ou d'apporter un éclairage un petit peu différent de celui directement du texte biblique.
Ben oui, parce que si c'est pour la raconter telle que c'est écrit, c'est pas la peine, autant lire quand.
Alors comment est-ce que vous procédez vous-même pour arriver, pour trouver des idées, pour mettre en scène le texte biblique et quelque part dire quelque chose d'important en lien avec lui?
J'essaie de faire le même travail que font tous les conteurs, c'est-à-dire on lit une fois le passage et on referme et on se fait un film dans sa tête. Parce que les conteurs travaillent sur les images, donc on fait défiler les images devant notre tête et on met des mots sur les images. Voilà, en gros c'est ça. Et les conteurs laïcs disent toujours, les conteurs racontent ce qu'ils ont vu. Alors pour nous, chrétiens, je trouve c'est très important, qu'est-ce que nous avons vu? Qu'est-ce que moi j'ai vu? Par exemple, des 10 lépreux, la samaritaine, etc. Comment je l'ai vu? Comment ça s'articule toujours en restant près du texte.
Et vous choisissez de vous mettre à la place d'un personnage, vous trouvez une sorte de mise en abîme, un petit enfant qui vous permet peut-être d'avoir un regard original sur une scène ou autre chose?
Bien, comme je l'ai dit l'autre soir, moi j'y étais pas, hein, donc je vais pas vous dire que j'y étais pas, donc je peux pas parler à la première personne, donc il va bien falloir que je me débrouille pour trouver un témoin. Alors, tout le travail consiste à raconter, oui, au travers d'un autre personnage qu'on trouve, ou si c'est à la première personne, de toute façon, il faudra toujours qu'il y ait la place du narrateur. Donc le narrateur, pour le coup, c'est vraiment moi. Et je dis toujours, le narrateur, c'est comme des bottes de 7 lieues, hein, ce qui vous permet d'aller de là à là et faire des raccourcis. Et c'est très pratique, surtout dans l'histoire de Joseph, par exemple. Oui, il faut trouver c'est des outils de conteur après, hein. C'est le vrai travail.
Et ça, comment est-ce que ça passe aujourd'hui? Vous trouvez que la Bible est un texte qui se compte bien?
C'est pas commode parce qu'en fait, il n'y a pas une intro. Quand on saisit quelques versets dans la Bible, vous n'avez pas introduction, développement et conclusion. Donc ça, il va falloir que vous le trouviez vous-même. C'est ce qui est un peu plus compliqué peut-être avec la Bible qu'avec des contes traditionnels où tout est en boîte, on va dire, quelque part. Bon, de toute façon, si vous lisez une histoire, même une légende ou un conte, pour vous l'approprier, il faudra faire le même travail. C'est-à-dire, vous le lisez une fois, vous fermez le livre, et après, vous vous l'appropriez, il faut que ça chemine en vous. Bon, il y a tout le travail du conteur. C'est exactement la même chose dans la Bible. à la différence près, qui n'est quand même pas mince, c'est que pour moi, c'est Dieu qui tire les ficelles. Et c'est là qu'il faut être vraiment à l'écoute de ce qu'on a dans son cœur.
Brigitte Blaise, vous-même, qu'est-ce qui vous a poussé à conter la Bible, à entrer dans cette démarche de conteuse en fonction du texte biblique ?
J'étais dans des difficultés matérielles et je me suis un peu parachutée conteuse parce que pour les, fallait vivre, quoi. Et c'était tellement vital pour moi à cette époque-là que quand je suis allée donner mon premier spectacle dans des écoles, les trois conseillers pédagogiques allaient être présents, ça venait de m'être envoyé par fax, et j'étais en train de conduire avec tous mes instruments dans la voiture, et là j'ai prié, j'ai dit « Seigneur, si ça marche, je raconterai pour toi ». Voilà, c'est parti comme ça. Alors après, il a fallu que je me débrouille pour accomplir ma promesse. Mais
donc tout concrètement, ça a marché.
Ça a très bien marché. On m'a fait une très belle lettre pour me cautionner dans l'inspection académique. J'étais enchantée. Donc j'ai circulé. Après, j'ai vraiment travaillé dans les écoles pendant 3 ans. Et puis après, j'avais cette petite voix sans arrêt qui me disait « Alors, et ta promesse ?» Et franchement, là, je savais pas comment m'y prendre. Parce que je savais à peine raconter des histoires en général. Raconter la Bible, franchement, je...
Et comment est-ce que vous êtes parvenu à sortir un CD avec 4 histoires de la Bible, avec aussi tout un engagement aujourd'hui dans toutes sortes de milieux où vous comptez la Bible ?
Oui, ça n'a pas commencé... Je dis, j'ai mis au moins 3 ans à décoller. Et jusqu'à ce que Dieu... oui, je peux le dire, parce que c'était tellement extraordinaire la façon dont ça s'est passé. C'est vraiment lui qui m'a rappelé à ma promesse. De toute façon, je ne peux pas vous raconter ça là, mais...
Et comment est-ce que ça s'est passé la première fois que vous aviez à compter la Bible ? Vous vous rappelez ?
Tout à fait, parce que cette histoire-là, j'ai le sentiment que c'est pas moi qui l'ai faite. Tellement ça a été miraculeux. C'est l'histoire de Zachée. Et je l'ai racontée pour la première fois dans un congrès baptiste. Mes pieds ne touchaient pas le sol, c'était pas moi qui racontais. Et j'ai eu une seule histoire pendant longtemps, et tout le monde disait, vous savez, Brigitte Blaise, elle raconte la Bible. C'était terrible, j'avais qu'une histoire.
Donc l'histoire de Zachée.
J'avais qu'une histoire. Et quand on m'a fait venir, Samuel Chevalier m'a fait venir au centre de Gagnères, mon pasteur, pour faire des ateliers, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire ? J'écoute des ateliers pour raconter la Bible. C'est sorti comme ça tout seul, j'aurais pu venir faire de la musique ici, mais voilà, c'est sorti de mon cœur. Et j'ai eu le sentiment qu'on me disait, t'arrives pas à décoller ? Va faire décoller les autres. Voilà.
Donc là, vous avez donné une sorte de cours, de formation en lien avec... le fait de compter la Bible, et ça vous a permis vous-même alors de décoller, véritablement ? Ou d'aller plus loin, d'avoir davantage d'histoires dans votre répertoire ?
Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre que ce soit ça, parce que c'est quand même deux paramètres très différents, l'enseignement et le travail de conteur en soi. Au point que quand je fais de la formation ici, à Gagnères, comme l'autre jour, raconter en même temps, pour moi, c'est très difficile. Très difficile d'être en même temps dans les gens et puis de raconter pour soi. Je ne suis pas sûre que ça m'ait vraiment aidé à décoller. Ça m'a peut-être mis en mouvement. Et ensuite, c'est parti de commande, parce que ça, c'est su. Et du coup, des pasteurs m'ont demandé, comme Carlos Payan m'a demandé de venir raconter. Donc, j'ai été racontée 2 fois au pavillon Baltar.
Donc ça, c'est en région parisienne.
Voilà.
Dans un grand rassemblement, j'imagine qu'il y avait beaucoup de monde.
De 2500 personnes, c'était assez...
Et vous avez raconté quelle histoire de la Bible ?
J'ai raconté les 10 lépreux. Les 10 lépreux, c'était vraiment pour Paris Tout est possible. Carlos Payan, c'est lui qui me l'a demandé. En plus, il m'a demandé l'accordéon en même temps. Vous voyez un peu l'acrobatie de l'accordéon dans les 10 lépreux, comment je vais m'y prendre. Ça, je peux quand même vous le dire, c'est une anecdote extraordinaire. Chaque fois après que j'ai eu à construire une histoire pour Dieu... Je vous donne un exemple. Pour les 10 lépreux, je me suis enfermée 3 jours et 3 nuits chez moi. Je n'ai vu absolument personne. Je n'ai eu qu'un seul coup de téléphone pendant les 3 jours d'un ami qui n'est pas chrétien, un ami luthier, et qui m'a demandé ce que je faisais. Je lui dis donc ce que j'étais en train de faire. Et il me dit, ah bon, et 10 lépreux, tu en as déjà vu ? Bien sûr que je n'avais pas vu de lépreux, mais lui en avait vu. Il était parti travailler pour Handicap International et il m'a donné toutes les images dont j'avais besoin. Et c'est la seule personne qui m'ait parlé pendant les 3 jours que je faisais cette histoire.
C'était vraiment une personne ressource clé pour la mise en forme du récit des 10 lépreux.
Bah écoutez, vous en déduisez ce que vous voulez. Moi, je sais. C'est tout. Et à chaque fois, ça se passe de la même façon.
Et aujourd'hui, quand vous vous mettez comme ça devant un grand auditoire, mais j'imagine aussi devant de plus petits groupes, à compter la Bible, quels sont les échos que vous avez ?
Ben, c'est toujours fort, c'est toujours... Je suis la première bouleversée parce que je vois bien que ça me dépasse. Je vois bien que ça me dépasse ma technique, ça dépasse mes connaissances, ça dépasse... Ça vient d'ailleurs, quoi, parce que je comprends pas pourquoi les gens sont touchés comme ça. Je sais qu'après la Samaritaine, ça m'est arrivé de voir une femme s'approcher de moi, me saisir le visage et pleurer en me disant j'ai jamais rencontré quelqu'un qui ne jugeait pas, m'avait-elle dit comme ça. Et bon, c'est à peu près ses propos, je me souviens plus bien. Ça me dépasse, tout ce que je peux vous dire. Bon, tout ce que je sais également, c'est que c'est pas parfait. Et que je dis toujours, j'amène mes petits pains, mes petits poissons. Et puis voilà, je compte sur le Seigneur pour rajouter, pour retrancher. Voilà.
Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, dans le cadre des églises, dans aussi plus largement en dehors, le fait de savoir compter est un outil qui fait que on arrive mieux à dire Dieu aujourd'hui, à exprimer des convictions, à dire la foi?
Écoutez, c'est quand même plus facile de dire « je vais vous raconter une histoire » que de dire « attendez, j'ouvre ma Bible et je vous lis un verset ». Ça me paraît plus facile. Et ça risque d'être plus vivant. Vous risquez de pouvoir embarquer les gens quand même plus aisément. Et de pouvoir le raconter dans des situations étonnantes, comme ce qui m'était arrivé un jour avec ce TGV. Parce que le jour où vous avez une histoire, Dieu le sait, il va s'en servir. Pour un anniversaire, pour une rencontre en famille, ou lors d'une panne de TGV.
Donc là, lors d'une panne de TGV, vous vous êtes mis à compter la Bible, c'est ça, en live dans un wagon ?
Oh ben ça, c'est un des trucs les plus bouleversants qui me sont jamais arrivés. Parce que je revenais d'une église, l'église de Poitiers, où ils avaient organisé toute une session pour moi, où il n'y avait personne. Ils avaient travaillé énormément, ils avaient distribué de la pub partout. Et il y avait 5 personnes dans cette église la veille pour mon spectacle. Et en attendant que les gens arrivent, j'étais allée me promener dans la cité derrière. Et il y avait... Tous les gens étaient derrière, ils étaient en train de faire une fête. J'étais en rage. Je dis, mais c'est pas possible. Ils sont tous là derrière et moi je vais parler de toi Seigneur, ici il n'y a personne. Je dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Si tu me demandes de monter sur la table et de dire arrêtez de bouffer, je vais vous parler de Jésus-Christ, moi je veux bien, mais je ne suis pas du tout sûre que c'est ce qu'il faut faire. Mais j'étais vraiment en rage. J'ai prié autour de ces tables, je me suis promenée autour des tables, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont tous là les gens et moi je vais raconter à côté, ça n'a pas de sens. Et bon, finalement j'ai raconté pour 8 personnes. Et le lendemain, quand j'ai repris le TGV, il est tombé en panne et nous sommes restés en rade pendant 5 heures. Panne de caténaire, une chaleur torride, les pompiers distribuaient de l'eau, 20 wagons de TGV, c'était un double wagon. Et mes instruments étaient dedans, quelqu'un m'a dit, vous avez des instruments, pourquoi vous n'iriez pas les chercher? Alors là, je me suis dit, non, ça y est, je vois le coup venir, je vois le truc. Il dit, oh non, pas moi, Seigneur. Je suis remontée, j'ai descendu l'accordéon, et j'ai sonné du chauffard pour dire que j'allais faire un spectacle, et alors là, c'était extraordinaire. Et là, j'ai eu le sentiment, enfin, une toute petite idée de ce que ça devait faire à Jésus de voir les gens arriver. Parce que les gens étaient montés sur la colline avec leur portable pour annoncer le retard. Ils descendaient tous de la colline. Il y en a qui arrivaient à droite, il y en a qui arrivaient à gauche. Ils s'installaient tous devant moi. Et moi, j'avais mon cœur qui battait. Je me disais, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Si je parle de Jésus-Christ, je vais me faire lyncher, quoi. Et je suis partie comme ça à... avec la voix que je n'avais jamais eue, une voix qui portait loin, c'était pas ma voix. Et je me suis surprise à faire des choses de travail de conteur que moi je faisais jamais d'habitude, c'est-à-dire prendre les gens à partie. Du style, et vous savez pourquoi ils le suivaient? Ils auraient pris n'importe quel TGV pour le rejoindre parce qu'il avait la parole de vie. Et vous voyez, là-haut, derrière, alors tout le monde se retournait. En haut, là, à l'endroit où il y a le monsieur avec sa chemise verte, dit lépreux. Et je suis partie. J'ai raconté les dix lépreux, tout en me disant sans arrêt, mon Dieu, je risque d'être interrompu par le porte-voix, par les pompiers, par... est-ce que je dois parler ouvertement? Est-ce que... Et finalement, les gens écoutaient, comme s'ils étaient assoiffés, comme s'ils étaient affamés. Ensuite, ils ont amené un autre TGV, on est remonté dans l'autre TGV, ils avaient mis une échelle pour qu'on puisse monter dedans, et tout le monde, les gens se sont installés comme ils pouvaient. Et au fur et à mesure que je passais dans les wagons, les gens m'arrêtaient par mon vêtement en me disant « Mais madame, c'était super, vous nous avez fait passer un bon moment. » Mais c'était incroyable, les gens me photographiaient, me demandaient ma plaquette. Jamais, jamais quelqu'un m'a dit « Madame, vous avez fait du prosélytisme. » Jamais. Il savait tout. J'ai pas prononcé le mot de Jésus, à part à la fin, où j'ai quand même dû dire ce que disait ce lépreux guéri. Mais ils savaient tous de qui je parlais. Il y a des dames qui sont venues me voir en me disant « Ah, c'est vrai qu'à mes petits-enfants, je devrais raconter plus, etc. etc. » Bon, voilà, c'est un peu long à raconter, donc je vais arrêter là.
Mais c'était vraiment l'occasion, quelque part, de voir que la narration aujourd'hui, le fait de conter la Bible, entraîne même des passions.
Ben oui, tout à fait. Mais bon, il y a beaucoup à dire. Hein. J'ai une conférence, moi, à faire là-dessus maintenant, parce que ça fait quand même 6 ans que j'enseigne ici. Mais je voudrais juste finir avec l'histoire de... je reviens juste une seconde sur le truc du TGV. Vous en pensez ce que vous voulez, mais la veille, il n'y avait quand même personne. Et le lendemain, il y avait ces milliers de gens pour moi. Bon, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Moi, je crois que c'est ça qui m'a bouleversée. Donc, voilà. Il faut être à l'écoute, il faut écouter, il faut être présent, il faut saisir. Et puis, comme tous les artistes font, ben, faire avec ce qu'il y a, là, à l'instant qui passe. Dans la brise, le petit vent qui souffle.
La conteuse Brigitte Blaise, qui répondait à vos questions, Serge Carrel, et rappelons qu'elle animait un atelier lors du stage artistique des écoles Psalmodia à Gagnères cet été.
Oui, un atelier qui abordait la manière de conter la Bible, et si vous souhaitez découvrir sa démarche artistique, il y a des informations complémentaires sur la page web de l'émission rsr.religion.ch.
Et demain, nous quittons par contre le Sud et nous revenons en Suisse pour une nouvelle rencontre.
Oui, une nouvelle rencontre d'un artiste qui affiche de manière assez directe ses convictions chrétiennes. Il s'agit d'un chanteur, Philippe de Courroux. Il est à la fois chanteur classique, mais il a beaucoup développé ces dernières années une activité d'artiste de variété, on pourrait dire, dans le style pop-rock. Et fin septembre, il sort un DVD d'un de ses concerts ainsi qu'un clip contre la traite des êtres humains.
Rendez-vous donc à 16h30 demain pour une 4e édition de cette série À vue d'esprit, réalisée par Françoise Yeni cette semaine et proposée par vous, Serge Carrel. Vous pouvez nous joindre par téléphone si vous souhaitez en savoir plus sur ces émissions au 021 318 60 70.